journal est présenté par Antoine Denecher. Bonsoir Antoine.
Bonsoir. Des débris d'avion ont été retrouvés en mer Méditerranée cet après-midi, non loin de l'endroit où l'avion d'Égyptair qui assurait la liaison Paris-Le Caire a disparu cette nuit. 66 personnes étaient à bord, principalement des Égyptiens et des Français. L'Égypte estime ce soir que l'hypothèse terroriste est la plus probable. En France, l'intersyndicale opposée à la loi travail se réunit ce soir pour décider des suites de la mobilisation. Intersyndicale qui parle d'un regain de participation ce jeudi dans les grèves et les manifestations. Nous irons à Paris où la CGT revendique 100 000 participants. La police, elle, parle de 14 000 personnes. Emmanuel Macron tire un peu plus sur la corde encore. Le ministre de l'économie a non seulement contredit Manuel Valls aujourd'hui au sujet de la rémunération des grands patrons, mais il a aussi semblé s'en prendre à François Hollande lui-même et à sa fameuse formule « Mon ennemi, c'est la finance ». Décryptage de Stéphane Robert dans un instant. Puis en Autriche, manifestation en ce moment à Vienne contre l'extrême droite qui pourrait remporter la présidentielle dimanche prochain. Du grain à moudre, Hervé Gardette, ce sera avec vous à 18h20.
Le hip-hop souffre-t-il d'un délit de sale gueule? Nous allons discuter avec Wafa Mamesh, Laurent Bounot, Yannick Freitag et Étienne Menu.
A tout à l'heure, 18h20. Ils sont partis de Paris hier soir, direction Le Caire, dans le vol MS-804 d'Egypt Air. Mais les 66 personnes à bord de cet Airbus ne sont finalement jamais arrivées à destination. Leur avion s'est abîmé en mer, près d'une île grecque située entre Rhodes et la Crète. Ce soir, quelques débris seulement ont été retrouvés en Méditerranée, à Jera Mohammed.
Oui, des morceaux de plastique et deux gilets de sauvetage à 400 km au sud de la Crète, selon l'armée grecque. Première trace de cet avion depuis son dernier signal, peu après 1h du matin, heure française. Aucun problème, disait le pilote. Pourtant, il y en a bien eu un, quelques minutes plus tard seulement, quand l'avion disparaît des écrans radars. Un Airbus A320 en bon état. À une météo idéale, des pilotes expérimentés et qui n'ont pas lancé de messages de détresse, qui n'en ont pas eu le temps semble-t-il, ce qui laisse penser qu'un événement brutal et soudain se serait produit à bord. D'après le ministre grec de la Défense, avant de perdre contact, l'appareil aurait même effectué plusieurs virages brusques en chutant de 11 000 à 4 000 mètres d'altitude. Puis plus rien. L'hypothèse d'un acte terroriste est la plus probable, a déclaré ce matin le ministre égyptien de l'aviation. Si elle est confirmée, ce serait la deuxième attaque du genre et de cette ampleur en moins d'un an. Le 31 octobre dernier, déjà un avion russe qui avait décollé de Sharm el-Sheikh en Égypte avec des touristes à bord avait explosé en plein vol. Bilan, 224 morts. Un attentat revendiqué plus tard par le groupe État islamique. Alors le scénario s'est-il répété la nuit dernière? Seules les boîtes noires permettront de le dire. Une dizaine de navires, notamment civils, sont dépêchés sur la zone pour les retrouver avec l'espoir aussi plus infime de retrouver des survivants. Parmi les 66 passagers à bord, il y avait 15 Français.
Merci à Jera Mohammed. Alors vous parliez à l'instant du crash de l'Airbus russe dans le Sinaï égyptien en octobre dernier, qui en fait était un attentat. Eh bien, le changement d'attitude des autorités égyptiennes est flagrant aujourd'hui, François Umferkataji.
Devant une salle de plus de 200 journalistes au ministère de l'aviation civile égyptienne et dans un climat de tension certain, le ministre Chérif Fati a surpris son auditoire en annonçant que l'hypothèse d'une attaque terroriste était la plus probable qu'une défaillance technique. Lors du crash de l'avion russe Metrojet dans le Sinaï le 31 octobre dernier, l'Égypte avait mis plus de 4 mois à reconnaître la thèse terroriste. Aujourd'hui, le ministre a un tout autre discours.
Si nous voulons analyser la situation, la piste terroriste constitue pour le moment la plus grande probabilité. Mais je le répète, nous ne voulons pas tirer de conclusions hâtives. Vous avez entendu la conférence de presse, tout le monde dit « il paraît que ». Nous avons entendu que tout est basé sur des suppositions et non pas des faits. Donc, notre position officielle sera donnée après avoir trouvé des débris, après le début de l'enquête.
Des débris qui ont été retrouvés en mer quelques minutes après cette prise de parole. Les objets, comme un gilet de sauvetage, ont été localisés au sud-est de Crète. L'avion avait disparu des radars à 2h45 cette nuit, peu après avoir pénétré l'espace aérien égyptien. Il volait alors à 11 000 mètres d'altitude. Le dernier contact entre les autorités aériennes grecques et l'équipe était normal, rien de spécial. C'est la troisième fois en moins de 6 mois que l'Égypte subit un incident aérien majeur. Au mois d'avril dernier, un avion d'Égyptair avait été détourné par un déséquilibré mental. Et en octobre 2015, l'attentat contre un avion russe revendiqué par l'État islamique avait fait 224 victimes et mis à genoux l'industrie du tourisme en Égypte.
Explication signée François Umferkataji au Caire. En France, sixième journée de mobilisation contre la loi travail aujourd'hui et les syndicats opposés à cette réforme qui se réunissent ce soir pour étudier la suite du mouvement revendiquent un regain d'affluence ce jeudi, répondant ainsi à Manuel Valls qui ce matin avait parlé d'un essoufflement du mouvement. Il y a eu des manifestations un peu partout en France et évidemment à Paris cet après-midi. Il y a eu quelques échauffourées avec la police sur le parcours du cortège. 9 interpellations d'ailleurs en début de manifestation, mais globalement la CGT estime que cette manifestation est une réussite. Avec 100 000 participants, alors 14 000 selon la police, hein, c'est toujours le grand écart dans les chiffres. C'est quasiment deux fois plus que mardi dernier selon le syndicat. Vous étiez dans le cortège, Annabelle Grelier, un cortège très déterminé.
Dans le cortège aujourd'hui, il y avait les manifestants de la première heure contre la loi El Khomri, comme Robert.
Étant retraité, c'est pas pour moi. De la même manière qu'il y a eu les générations avant nous pour défendre notre emploi à nous. De la même manière, je crois qu'il faut qu'on défende l'emploi des jeunes. Pour nous qui sommes de gauche, nous sommes simplement là pour répondre à une provocation qui dure depuis 3 mois.
Frédéric, instituteur, lui, n'était pas descendu dans la rue avant.
Non, parce qu'il faut poser des jours de grève. Et donc moi, là, je perds du salaire et je mets dans l'embarras des parents. J'en suis conscient.
Mais l'instituteur a désormais des choses à dire.
On casse le modèle social français et européen, hein, d'une façon générale d'ailleurs. Donc je suis là pour ça et je suis là aussi à cause de la brutalité du 49-3. Et enfin et surtout, je suis là parce que j'ai voté à gauche en 2012 et j'en ai assez d'avoir une politique de centre-droit, on va dire.
Face au risque de violence et des tirs de lacrymogènes, Marc, professeur de philosophie, a pris aujourd'hui ses lunettes de piscine et son casque de vélo.
On s'équipe parce que non, bah, on n'est pas en première ligne, hein. On est quand même un peu à leur côté.
C'est qui les gens en première ligne dont vous parlez ?
Ben, ce sont mes enfants par exemple qui sont étudiants, qui ne sont pas des casseurs, je les connais très bien. Mais voilà, ils prennent des coups, donc là aussi on est extrêmement remonté aussi contre ce qui se passe, contre cette répression, une répression féroce, policière et judiciaire.
En tête de cortège, le service d'ordre de la CGT avancé en rang serré, équipé de casques également. Non loin derrière, les cheminots. Serge assure que le mouvement est maintenant lancé.
Du tout. Moi, je ne suis pas essoufflé du tout. Et je crois que les gars qui étaient là ce matin, ils ne sont pas essoufflés. La SNCF, c'est une grosse machine. Hein, avant que c'est comme un moteur diesel. Hein, avant qu'ils se mettent vraiment en marche, va peut-être avoir quelques jours. Mais en tout cas, nous, on va essayer de l'étendre.
Étendre le mouvement grève, l'objectif déclaré des syndicats. Force ouvrière appelle à une grande grève interprofessionnelle et nationale en juin.
Merci Annabelle Grelier. Notez ce symbole et cette image très forte à Albi cet après-midi. Des portraits de François Hollande, mais aussi Pierre Gattaz, Myriam El Khomri et Emmanuel Macron ont été brûlés dans un bûcher à la fin de la manifestation, donc à Albi près de Toulouse. Dans les cortèges, on observe depuis quelques temps que les jeunes très présents au début de la mobilisation semblent nettement moins nombreux. Alors pourquoi ? Hélène Terzian a posé la question cet après-midi à Jean-Charles Breck, qui est responsable du syndicat étudiant UNEF dans les Yvelines.
Aujourd'hui, quand on est étudiant, on a aussi une période qui s'appelle du coup les partiels, où du coup, on est obligé de réviser, on est obligé de passer nos examens. Si ce sans quoi, on n'aura pas notre diplôme, et du coup, pour travailler par la suite, ce sera compliqué. Et on est en plein dans cette période, donc évidemment, il y a une baisse de la mobilisation. Mais une chose à voir, c'est qu'aujourd'hui, c'est la jeunesse qui a été le fer de lance de la mobilisation. Là, ce qu'on fait, on passe le relais justement, au syndicat professionnel. On a dit la loi travail, on n'en veut pas, et aujourd'hui, on est là toujours, on sera toujours là, on amènera les étudiants en manif justement, pour le retrait de cette loi. C'est aussi une époque qui est différente, où il y a un rabot général de la politique qui existe au sein de notre pays, et du coup on essaye de trouver de nouvelles manières de mobiliser d'une part et surtout de fédérer les gens autour de ce mouvement, notamment sur les réseaux sociaux, toujours partager les événements qui ont lieu. Il y a des rassemblements qui ont lieu vraiment, qui ne sont pas que des manifestations. On fait aussi du porte-à-porte dans les résidences universitaires, on propose des colloques contre la loi travail justement, où on parle, où il y a beaucoup de pédagogie qui est faite sur ces sujets-là. Il est important donc de continuer à se mobiliser, d'une part parce que cette loi elle est mauvaise, mais en plus parce que le gouvernement ne respecte pas la voix des citoyens, puisqu'aujourd'hui le 49-3 s'est passé outre la démocratie.
Alors on a parlé des manifestations, mais il y avait aussi grève dans plusieurs secteurs aujourd'hui, notamment à la SNCF. La direction de l'entreprise ferroviaire parle de 14% de cheminots en grève. Notez au chapitre des violences maintenant qu'à Rennes ce matin, 19 personnes ont été interpellées dans le métro, placées en garde à vue pour association de malfaiteurs et dégradation volontaire de biens destinés à l'utilité publique par des personnes qui agissaient en réunion et avec le visage dissimulé. Par ailleurs, l'état d'urgence est officiellement prolongé de 2 mois jusqu'au 26 juillet prochain en France. Les députés, sauf les élus du Front de Gauche et quelques écologistes, ont voté pour. Et d'ailleurs, toujours à ce chapitre politique à l'Assemblée, sachez qu'il n'y a plus de groupe écologiste puisque 6 députés viennent de décider de rejoindre le groupe socialiste. Ce qui fait que ceux qui restent, ceux qui sont les plus critiques contre le gouvernement, dont Cécile Duflot, eh bien, ne sont plus assez nombreux pour constituer leur propre groupe parlementaire. Question maintenant, jusqu'à quand Emmanuel Macron va-t-il pouvoir rester au gouvernement? La question se pose très fortement ce soir, après une nouvelle série de déclarations du ministre de l'économie contre Manuel Valls, et chose nouvelle, contre le chef de l'État, Stéphane Robert.
Oui, c'était ce matin, Emmanuel Macron était l'invité de la conférence annuelle des investisseurs pour la croissance, et à la question de savoir s'il fallait légiférer pour limiter la rémunération des grands patrons, comme le propose le Premier ministre Manuel Valls, il a répondu:
je pense que la loi n'est pas la bonne méthode, et je pense que la France n'est pas la bonne géographie.
L'exact inverse, parce que ça ne sert à rien, a-t-il expliqué. Si on fait ça, les grands dirigeants d'entreprise iront se faire rémunérer en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis. Or, cette prise de position est non seulement une manière de contredire frontalement le chef du gouvernement, mais elle prend aussi le contre-pied de l'opération politique en cours, orchestrée par Manuel Valls et par François Hollande. Opération qui consiste, après les épisodes fâcheux sur la déchéance de nationalité et le 49-3 à l'Assemblée sur la loi El Khomri, a tenté de rassembler la gauche autour d'une mesure qui fait consensus, le plafonnement de la rémunération des grands patrons. Et pour bien montrer qu'il s'affranchissait de la tutelle de Manuel Valls, mais aussi de celle de François Hollande, à la question « Est-il l'ami de la finance ?», Emmanuel Macron a répondu:
il ne s'agit pas d'être l'ami ou l'ennemi, mais j'essaie d'être lucide dans une économie ouverte, où l'innovation est de plus en plus forte, nous avons besoin de la finance.
Voilà, après avoir créé son propre mouvement politique En Marche, après avoir affirmé qu'il n'était ni à droite ni à gauche, Emmanuel Macron renvoie dos à dos Manuel Valls et François Hollande à leurs opérations politiciennes, ce qui pourrait effectivement le conduire à rapidement démissionner du gouvernement afin de se placer en orbite vers une potentielle candidature à la présidentielle. En tout cas, on semble assister là au décollage de la fusée Macron.
Merci Stéphane Robert. Le gouvernement veut montrer son engagement en faveur des handicapés. Ce matin, Manuel Valls, Najat Vallaud-Belkacem, Marisol Touraine et Clotilde Walter ont participé à l'Élysée à une conférence nationale du handicap aux côtés de la secrétaire d'État en charge du dossier, Ségolène Neuville. Et en clôture, il y avait François Hollande qui a promis de nouveaux efforts pour la scolarisation, l'insertion professionnelle et le logement des personnes en situation de handicap, Aurélie Kiefer.
Ne laisser personne au bord du chemin, c'est la volonté affichée par le président qui dit sa détermination à construire une société plus inclusive. Je vous propose d'écouter tout de suite François Hollande.
Longtemps, la politique du handicap a cherché à protéger. Ces initiatives étaient louables, mais elles ont eu pour conséquence de limiter les occasions d'échange avec le reste de la société et parfois d'enfermer. Aujourd'hui, la politique vise à émanciper, à développer l'autonomie, à reconnaître les capacités des personnes handicapées, les talents, les chances que nous avons d'être différents. La politique du handicap, c'est bien plus qu'une politique. C'est une conception de la société. Pour que chacun vive pleinement, dignement, librement sa vie, pour que tout citoyen, toute citoyenne puisse être autonome, donc responsable.
Voilà pour l'état d'esprit. Concrètement, les annonces concernent l'école avec la revalorisation du rôle des auxiliaires de vie scolaire. Il y aura 32 000 AVS supplémentaires sur les 5 prochaines années. Et les contrats aidés vont se transformer en CDI. C'était une attente de longue date des familles. Le président s'engage aussi pour l'emploi avec l'introduction du concept d'emploi accompagné dans le projet de loi travail et avec la nouvelle prime d'activité qui valorisera le travail des personnes handicapées. Concernant le logement, 1 500 places supplémentaires seront créées chaque année en pension de famille. Le gouvernement veut favoriser le logement accompagné et l'habitat partagé. Enfin, l'offre médico-sociale doit évoluer. Il faut plus de places, mais surtout mieux répondre aux situations complexes. Une enveloppe de 180 millions d'euros est prévue sur 5 ans et un volet spécifique sera consacré au polyhandicap. Quant à l'accessibilité des lieux publics, François Hollande promet un suivi exigeant des efforts. Pas de quoi rassurer l'Association des paralysés de France qui déplore de graves reculs ces dernières années.
Merci Aurélie Kiefer. Question sur l'Autriche. Va-t-elle élire un président d'extrême droite dimanche lors du second tour de la présidentielle? Le candidat du FPO, le Parti de la Liberté, Norbert Hofer, fait en effet figure de favori contre le vert Alexander Van der Bellen. Il faut dire qu'au premier tour, il y avait 14 points d'écart entre les deux candidats. Seule chance de l'emporter pour Van der Bellen, c'est de capter les voix de la droite de ce qu'on pourrait appeler chez nous un front républicain. Écoutez à ce propos l'analyse d'Anton Pelinka. Il est professeur à l'Université d'Europe centrale de Budapest et spécialiste des nationalismes.
Si vous demandez qui ne doit jamais être le parti majoritaire, alors le Parti de la Liberté aura le pourcentage numéro un. Ce parti d'extrême droite polarise. Il parle au nom d'une importante minorité. Donc, la question sera, est-ce que son adversaire, Van der Bellen, est capable de recruter la majorité? Une majorité qui est de centre-droit, pro-européenne, qui redoute qu'Hofer isole l'Autriche au sein de l'Union européenne. Dans un sens, c'est presque un front populaire.
Cet après-midi, il y a des manifestations anti-Hofer et Van der Bellen a demandé au syndicat des étudiants, l'organisateur, de les annuler. Ce serait vraiment terrible pour sa campagne.
Ça le pourrait bien. La stratégie de Van der Bellen est de construire ce front populaire de la droite modérée jusqu'à l'extrême gauche. Et bien sûr, Hofer essaie de le coincer à l'extrême gauche. Et si ces manifestations donnent l'air d'être dominées par des extrémistes gauchistes, alors ça pourrait bien être difficile pour lui de revendiquer « je suis le modéré, Hofer est l'extrémiste ». Et là, ça deviendrait vraiment compliqué.
Anton Belinka, interrogé par notre envoyé spécial en Autriche, Ludovic Piétenu. C'est une étape de plus dans la mainmise du président Erdogan sur le pouvoir en Turquie et la mise en place d'un régime présidentiel de type autoritaire. Après l'éviction d'Ahmet Davutoglu, qui avait annoncé début mai sa démission surprise du poste de Premier ministre, eh bien le parti d'Erdogan, l'AKP, vient de dévoiler le nom de son remplaçant. Comme attendu, il s'agit d'un très proche du président Alexandre Biette.
La presse l'annonçait depuis quelques jours, c'est finalement confirmé. Binali Yildirim sera le seul et unique candidat à la succession d'Ahmet Davutoglu. Il sera élu à la tête du parti et donc du gouvernement lors du congrès extraordinaire de dimanche. Binali Yildirim est l'actuel ministre des Transports. C'est surtout un proche, très proche de Recep Tayyip Erdogan. Un profil de gestionnaire avec des talents oratoires assez limités qui correspond bien à la volonté du président turc d'avoir comme premier ministre un fidèle parmi les fidèles. Tout est en place donc pour assurer la mainmise totale de Recep Tayyip Erdogan sur le parti. Par la suite, c'est le Conseil des ministres qui devrait être remanié pour y placer des fidèles du chef de l'État et écarter les proches du premier ministre sortant.
Et puis il y a quelques instants, Jean-Marc Ayrault annonce que la conférence de Paris sur le Proche-Orient initiée par la France aura lieu le 3 juin prochain. John Kerry, secrétaire d'État américain, fait savoir qu'il sera présent. Cannes maintenant, deux films de réalisateurs habitués du festival ont fait leur entrée dans la compétition aujourd'hui. Le roumain Cristian Mungiu, Palme d'Or en 2007, il a présenté Baccalauréat. Puis la star Xavier Dolan est venue avec Juste la fin du monde. Bonsoir Antoine Guillot.
Bonsoir Antoine.
Alors le film de Xavier Dolan a ses détracteurs et ses admirateurs. Vous faites partie de quelle catégorie Antoine ?
Je n'ai jamais été très convaincu, je dois avouer. C'est un fait que Xavier Dolan continue à diviser la croisette. Génie hypersensible ou faiseur cynique et tape à l'œil et à l'oreille. Ce nouveau film ne risque pas de la réconcilier. La croisette, adaptée d'une belle et subtile pièce de théâtre de Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde, rassemble une distribution de poids. Nathalie Baye, Marion Cotillard, Léa Seydoux, Vincent Cassel et Gaspard Ulliel en un huis clos où un fils prodigue revient pour annoncer sa mort prochaine. La réunion de famille, évidemment, tourne vite au règlement de compte généralisé. Le parti pris adopté par Dolan, une succession de gros plans très rapprochés qui se succèdent en champ contre champ et font de ces personnages névrosés et à cran des têtes parlantes hystériques qui débitent avec un ton qui se voudrait naturaliste un texte qui n'est plus que bavard. Les recettes habituelles de Dolan, le monsieur plus du cinéma, sont toujours les mêmes. Trop de tout, de musique à fond pour emporter le spectateur, des couleurs hyper saturées, d'inévitables moments clipesques et maniérés pour illustrer voire expliciter le texte. Dans le genre famille en crise, on préférera le film roumain présenté le premier jour de la compétition, Sierra Nevada de Cristi Puiu, autrement subtil et imaginatif en matière de mise en scène.
Alors subtil et imaginatif, est-ce que c'est aussi le cas du deuxième film roumain de la compétition, Antoine Guillot ?
Précisément, Baccalauréat est comme l'étrange mélange de deux films dont je vous ai parlé hier, comme chez les frères Dardenne mais aussi chez Cristi Puiu, le personnage principal est un médecin et comme chez Briante Mendoza, le film ausculte mais d'une toute autre manière une société malade de sa corruption. Comment rester fidèle aux principes moraux dans lesquels on a éduqué ses enfants quand pour leur assurer un avenir il faut mettre le doigt dans l'engrenage des compromissions qui minent la Roumanie ? Cristian Mungiu dresse le portrait d'une génération anxieuse qui a cru, après la chute de Ceausescu, qu'elle pourrait changer le pays et ne voit plus comme futur à ses enfants que le départ à l'étranger, le tout avec un sens de l'espace, une intelligence de la mise en scène en plan séquence et un talent pour la direction d'acteurs dont on aimerait que d'aucuns s'inspirent un peu.
Merci Antoine Guillot en direct de la Croisette comme chaque soir dans le journal de 18h sur France Culture. On vous retrouve d'ailleurs demain 7h13 pour le portrait du jour consacré à Jean-Pierre Léaud. J'ajoute la disparition aujourd'hui du cinéaste français Alexandre Astruc. Il avait 92 ans, il avait remporté d'ailleurs le prix France Culture Cinéma Consécration en 2011 à Cannes. Réalisateur des Mauvaises Rencontres en 1955, il est considéré comme le père spirituel de la nouvelle vague pour avoir théorisé la caméra stylo, plaçant ainsi le cinéma comme un art à la hauteur de la littérature. La météo, de la pluie au petit matin dans un grand quart nord-ouest de la France, jusqu'à Paris d'ailleurs, des précipitations qui dans la matinée ne concerneront plus qu'une large bande qui ira du nord à l'Aquitaine. Un grand merci à François-Charles Demergue pour son aide dans la confection de ce journal.